1962. She was a girl from Radio G. 101.5 FM.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Et bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous sommes la nuit.
C'est vrai, il faut qu'on se mette dans la tête. On est la nuit. Dans les conditions du direct, nous enregistrons cette émission, vous l'aurez compris, donc, puisque je me suis trahi en pleine journée.
31e.
Voilà. 31e émission. Déjà,
disque.
Ça passe vraiment à une vitesse incroyable, je trouve, hein, ces chiffres-là. On n'aurait pas dû les compter parce que ça m'angoisse sur le temps qui passe.
C'est ça. Et alors, 31e émission et une petite entorse, n'est-ce pas, à nos principes.
Oui, à nos habitudes en tout cas.
Oui, à nos habitudes, voilà, puisque nous allons commencer par un morceau qui est sur un CD.
Ouais, mais ça c'est bien parce que ça montre aux gens qu'on n'est pas des extrémistes du vinyle, qu'on n'est pas bloqué sur un support. On a beaucoup d'affection pour le vinyle, mais ça ne nous empêche pas de respecter aussi les autres supports. Donc voilà, on va laisser de la place un peu à un CD.
Exactement, un CD en fait, je pense que sans plus c'est une édition originale, ce sera à vérifier, mais à une époque où justement le CD prend peu à peu l'ascendant, hein, je parle de l'année 1986. Et je vais vous lire un petit article qui est excellent, qui date de août 2019, Rock and Folk d'août 2019, dans une rubrique que j'aime beaucoup qui s'appelle Réhab, qui est tenue par Benoît Sabatier. Réhab, en fait, c'est une page qui est consacrée aux albums ignorés ou injuriés à leur sortie, qu'ils tentent de réhabiliter. Là, il s'agit de l'album de Iggy Pop, l'album Blablabla. Donc voilà, Benoît Sabatier. Si l'on a donné vie à un truc aussi ahurissant que les Stooges, peut-on ensuite faire carrière en enregistrant que des conneries? Iggy a le droit, et il l'a pris. Aucun de ses albums solo ne supporte la comparaison, sauf les deux premiers, sortis en 77, The Idiot et Lust for Life, mais dans un style incomparable. Pop tentera plus tard d'enregistrer de nouveau du rock thermonucléaire. Il reformera même les Stooges, devenant à partir des années 90 un artiste à la fois culte, vivant et vénéré. En attendant, durant toutes les 80s, il subit une période de disgrâce humiliante. Contrairement à ses camarades baby-boomers complètement aux fraises, il reste pourtant un des rares de sa génération à se faire une place aux côtés de la nouvelle garde. Les Cars, Père Ubu, Jim Carroll, The Only Ones, Devo, Pretenders, Wall of Voodoo, Blondie. Quand Iggy sort parti en 1980, il s'en prend plein la tronche. Quelle déchéance! L'homme de Search and Destroy qui vante en plein air Reagan les joies de la fiesta et de la réussite avec une couillonnade coproduite par le compositeur des Monkees. Pourtant, un album super avec Pumping for Jill, Bang Bang, Happy Man et deux impeccables reprises. Ses fans s'interrogent, comment pourrait-il davantage toucher le fond? Iggy a une solution, en remettant le couvert avec une pop star aussi ringarde que lui. David Bowie en 1986, période labyrinthe, coiffure que même Kajagoogoo n'ose arborer, s'apprête à sortir Never Let Me Down au plus bas. Blablabla entérinerait le naufrage de ces deux has-beens. Alors là je cite, j'en avais marre de bosser avec des idiots qui jouaient davantage de leurs sèches-cheveux que de leurs instruments face à un public uniquement obsédé par la taille de ma bite. Soit je me flinguais, soit je changeais de vie. La seconde option l'emporte en 1982. Lors d'un concert à Tokyo, Iggy demande à un roadie de lui ramener backstage une japonaise à lunettes qu'il a repérée. Le roadie en prend une au pif, Sushi. Je me disais que si je ne me tapais pas 5 filles dans la semaine, je ne serais plus sexy et je ne ferais plus de bonnes chansons, déclarait Liguan, qui maintenant épouse Sushi à la recherche de stabilité. Parallèlement, Bowie fait de China Girl tiré de The Idiot un hit. Iggy Pop touche des droits et au lieu de faire comme d'habitude, tout claquer en dope, il n'entre en désintoxication, ressort clean. Je cite, j'ai appris à remplir un livre de compte, à surveiller mon chéquier, à payer mes impôts. Bowie enregistre Tonight avec Iggy, reprenant deux morceaux de Lust for Life et une de New Values. Osterberg, donc c'est le vrai nom d'Iggy Pop, hein, s'achète un penthouse à Manhattan et se trouve de nouvelles activités. Je cite, j'aime passer l'aspirateur à la maison pour me changer les idées. Entre deux parcours de golf, handicap 15, il pratique la peinture, prend des cours de théâtre, apparaît dans la couleur de l'argent, et puisque c'est quand même son vrai job, compose à nouveau, aidé par Steve Jones, ex-Sex Pistols. Je cite, David faisait la moue, il croyait que j'allais refaire du Stooges. Quand il a enfin écouté, ses mâchoires ont failli se décrocher. Il pouvait constater que je n'avais pas gaspillé l'argent gagné avec nos disques. Je cite Bowie cette fois, avec nos femmes respectives, nous sommes allés 3 mois à Gstaad. La journée, nous skions, le soir, nous composions. L'anglais se charge de la production à Montreux. Rendez-vous à 10h du matin, turbin la journée, dîner le soir chez les Bowie, visionnage d'un film et au lit. 2 semaines pour mettre en boîte 10 morceaux. Une importance particulière est apportée au son de batterie. Les modèles, Roger Taylor de Queen et pour la caisse claire, Prince et Peel. Au final, la batterie, c'est le principal problème de Blablabla. De façon plus générale, le clinquant de la production saute aux oreilles. Je cite, « J'avais compris l'importance d'un son aussi poli qu'un miroir et aussi concurrentiel que possible. Je ne voulais pas qu'existe la moindre raison de ne pas passer à la radio. J'ai connu l'échec, maintenant je brûle de connaître le succès. Je savais que mon image, celle d'un vrai barjou, m'empêchait d'être pris au sérieux. Alors je me suis peigné les tifs et j'ai enfilé un costard. » C'est donc l'album le mieux peigné d'Iggy, celui qui a atteint son but. Son plus gros succès commercial, avec clip en rotation sur MTV et passage chez David Letterman. Les fans des Stooges sont scandalisés, Pop finissant lui aussi par désavouer Blablabla. Pourtant, non seulement le gros son n'est pas rédhibitoire, pas plus que celui que de Born in the USA ou de Heartbeat City, la cohérence est totale, mais en plus des tailles qui comptent, les chansons s'avèrent fantastiques. Hideaway, un sommet, Fire Girl aussi, sans oublier Shades, Cry for Love, Splendid. Tout l'album en fait, à part Baby It Can Fall, aucun titre faible. À l'arrivée, un de ses meilleurs albums, ou en tout cas le meilleur pour passer l'aspirateur.
Yeah.
Et un titre ô combien d'actualité,
Isolation, donc Isolation. De cet album Blablabla, bla bla, qui souvent est éclipsé par les productions avec Bowie, les précédentes. Et donc voilà, je voulais le remettre un petit peu en lumière.
Bah oui, très belle chronique que tu nous as lue ici. On se dit en écoutant ça que on aimerait bien être des has-been autant que Iggy Pop et David Bowie. Moi, tu
sais,
ça me déplairait pas. Mais voilà, tout le monde, comme quoi, voilà, vous autres artistes qui connaissez aussi le creux de la vague dans vos carrières ou vos projets, eh bien, inspirez-vous peut-être de ces parcours de géants, qui ont eu aussi, voilà, leur album critiqué, leur carrière déjà pré-arrêtée par les médias, oui. Et puis ensuite qui ont su quand même s'imposer par justement le côté peut-être intègre, hein, qu'on peut accorder à des gens comme Iggy Pop, me semble-t-il, et David Bowie. Bon, ben on va revenir au vinyle maintenant, après cette parenthèse, cette exception, pour parler aussi d'un club de vinyle. Voilà, moi je voulais vous parler d'un club de vinyle parce que depuis décembre, je me suis abonné à un club américain de vinyle qui s'appelle Vinyl Me Please. Un club que toi tu connais, Julien, parce que tu étais abonné bien avant moi.
Bah en fait depuis effectivement mars de l'année précédente, voilà. Avec un album dont je vous ai passé un morceau. Le truc qui m'a fait m'abonner, moi, c'est la version du mix de John Cale de l'album des Stooges.
Des Stooges, on rentre bien.
Là, je me suis dit voilà, je suis obligé de m'abonner au moins 3 mois pour la voir. Oui. Et puis bah, finalement. J'y suis toujours.
Finalement, ça t'a plu et ton parcours au sein de ce club n'est pas étranger à mon adhésion. Donc, on va vous parler un petit peu de Vinyl Me Please. Et puis moi, ensuite, je vais vous illustrer ce club par les 3 vinyles que je viens de recevoir pas plus tard qu'hier, qui viennent aussi de ce club-là. Je vous en parlerai, bien sûr, comme d'habitude, par rapport aux artistes et aux albums. Mais vous aurez aussi l'occasion, comme ça, de vous faire une idée du pressage, de la qualité du son, puisque je vous les diffuse sans filtre et sans tricherie, directement depuis les platines du studio de Radio G. Donc Vinyl Me Please, qu'est-ce que c'est ? Vinyl Me Please, c'est un club américain de vinyle qui repose sur un principe de vous offrir chaque mois, enfin vous offrir entre guillemets, hein, à partir du moment où vous payez l'adhésion, qui comprend quand même un petit peu hein, le prix du disque, hein, mais en tout cas vous recevez chaque mois un vinyle que vous aurez sélectionné parmi une sélection de 3 vinyles, un qui est donc étiqueté classique. Donc on est plus sûr,
voilà. Qui n'est pas de la musique classique. Hein,
mais qui n'est pas de la musique classique, c'est un des grands classiques, on va dire, des albums de musique. L'autre qui est essentiel, alors voilà, il y a une nuance entre classique et essentiel. J'ai remarqué quand même que dans les classiques, souvent, on est sur des classiques un peu moins rock que ce qu'on trouve dans l'essentiel. Peut-être que c'est un petit peu ça la différence.
Et puis un petit peu plus daté, des fois, je dirais. Ouais. On est sur du jazz, du blues, des trucs un peu.
Très, très black music, je trouve.
Oui.
Dans les essentiels, on est quand même plus éclectique dans les approches.
Plus pop, un peu plus, des fois, des trucs plus modernes. Oui. Bon, après, il peut y avoir aussi des choses qui toucheraient la veine classique, mais c'est un peu plus récent.
Et puis la troisième catégorie, un petit peu plus spécifique, c'est la catégorie hip-hop. Donc vous pouvez, en fait, quand vous vous abonnez, vous choisissez votre catégorie préférée, et par défaut, dans l'année, chaque mois, vous recevrez le disque sélectionné dans cette catégorie-là. Mmh. Mais s'il ne vous convient pas, vous êtes prévenu un petit peu à l'avance de ce que ça va être, et s'il ne vous convient pas, vous avez l'occasion de le swapper, comme on dit, c'est-à-dire vous le changez soit par une des autres sélections dans les autres catégories du même mois, ou alors vous avez même la possibilité de le swapper par un album qui a fait partie des sélections précédentes, des mois précédents, et qui n'a pas été écoulé totalement. Voilà, donc je crois que c'est ça.
On peut même emmagasiner un peu d'argent de côté pour le dépenser dans la boutique plus tard, si vraiment il n'y a rien qui plaît.
Voilà,
nouveau, ça.
Ah oui, on peut faire le choix de ne pas de garder en crédit. Voilà, d'accord. Pour en avoir 2 peut-être le mois d'après.
Voilà.
Bon, le prix des adhésions, il est ce qu'il est. Hein,
il a bondi, voilà. C'est effectivement, c'est un club qui existe depuis, je ne sais plus, au moins 8 ans ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont récemment augmenté en disant on n'a pas augmenté nos prix depuis 4 ans, machin, mais ça a bien augmenté. Malheureusement.
Ouais. Je crois qu'on est autour des $150 les 3 mois, 250 les 6 et 500 $.
On est passé de 400 à 500 à l'année à peu près. Ouais. Donc,
$500 l'année, donc ça c'est le prix pour. Alors $500 l'année, juste pour vous donner une idée, ça représente à peu près 415 €.
Ouais.
Quand on convertit. 415 € pour 12 disques. ça vous fait un disque à entre 35 et 40 euros quoi, ce qui voilà est un prix quand même hein, parce que c'est pas rien. Mais on va parler après des avantages et des inconvénients de ce club. Moi, je trouve que dans les avantages en tout cas que j'y trouve, c'est que non seulement vous avez cette sélection, mais si vous voulez que ce soit quelque chose de rentable financièrement, en tout cas, il faut aussi profiter du fait qu'il vous offre systématiquement depuis les États-Unis les frais de port sur toute autre commande, tout autre achat complémentaire que vous pouvez faire sur leur boutique, qui recense quand même, en dehors de ce système d'envoi mensuel, il recense quand même un certain nombre d'objets, d'albums et d'éditions exclusives. Et vous pouvez les commander sans payer les frais de port. En général, les albums, ils sont autour d'une trentaine de dollars, voire un peu plus ou un peu moins.
Un peu moins, avec des titres réduits en tant que membre, etc. Et ils viendront donc avec votre sélection, en fait.
Ils sont postés en même temps, comme ça, eux, ça leur fait économiser les frais de port, et donc vous ne les payez pas, puisque vous les avez déjà payés au départ pour un disque, sauf que vous. Voilà. Mais peu importe si vous en commandez un ou cinq ou dix, vous paierez toujours le même prix, et on ne vous demandera pas des frais de port supplémentaires si vous êtes adhérent au club. Donc ça, c'est quand même, à partir du moment où on décide à faire un petit peu régulièrement ses petites courses dessus, c'est-à-dire que du budget vinyle qu'on dépense d'habitude, on décide de le mettre un peu plus dans le club que dans Discogs ou autre, et bien là ça devient vraiment une affaire plutôt rentable. Et en plus de ça, je vais te laisser parler de la qualité, parce que toi t'as plus de recul que moi, mais me semble-t-il que
c'est un autre point fort.
La qualité, c'est un point fort, on peut le ranger dans les avantages.
C'est un autre point fort, parce que alors déjà au-delà de la qualité en termes de collection ou de collectionnite, c'est souvent des tirages spécifiques à Vinyl Me Please, donc soit des tirages spécifiques d'une édition qui sera disponible sur le marché, mais eux vont avoir des couleurs ou des petites jaquettes en plus, ce genre de choses. Et voilà, en plus, au niveau qualité, on est vraiment sur un pressage qui, moi, pour l'instant, est impeccable. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu un poc, j'ai jamais entendu un scratch. La Dead Wax, au début, est complètement silencieuse. Enfin, voilà, c'est vraiment des très, très belles éditions. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Discogs et de lire un peu les commentaires. C'est pas infaillible, mais en termes de qualité, on a très, très rarement des gens qui se plaignent. Et ce, quels que soient les disques, quoi, en fait. Hein. On est vraiment sur du très bon matos, avec des pochettes résistantes. Des sous-pochettes déjà plastifiées, donc voilà, qui montrent quand même que c'est assez important. Et puis tous les disques classiques ont un petit livret des notes qui sont écrites par les gens souvent chargés d'acquérir les titres des collections. Et donc il précise le contexte de l'album, il précise l'historique, etc. Il y a aussi voilà les livrets intérieurs qui sont souvent de toute beauté et plein d'informations.
Oui, des approches biographiques parfois, des choses qui mettent un peu le contexte de l'artiste, enfin qui parlent de l'artiste, mais aussi du contexte de l'album, un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire très succinctement et humblement au manche-disque, mais voilà, on est sur une approche comme ça aussi de contexte, de recontextualisation de ce qu'on écoute.
C'est ça, leur idée, c'est vraiment, et la plupart des petites vidéos un peu promotionnelles qu'il y a sur leur site, c'est ça, c'est de prendre le temps, quoi, de prendre le temps de découvrir, de prendre le temps de se poser, de lire les notes, d'essayer d'aller à contre-pied toute cette culture dématérialisée où on enchaîne, quoi. Voilà. C'est acheter un disque rarement, même une fois par mois, mais voilà, en profiter, le découvrir du premier au dernier sillon, quoi.
Voilà. Donc bon, alors pour illustrer ça, alors je précise quand même qu'on n'est pas sponsorisé par Vinyl Me Please.
Non, d'ailleurs, j'avais envie de parler aussi qu'il existe pour ceux qui sont pas prêts à franchir le pas, parce que voilà, c'est un peu cher, etc. Il y a une offre qui est sur le même principe, une dimension réduite, parce que voilà, ils sont nouveaux, ils débutent et tout, mais c'est le Wax Buyer Club qui est la même chose mais en France. C'est pas les mêmes sélections, mais il y a des petites éditions spécifiques, il y a aussi du choix dans la boutique, etc. Alors moi, j'en suis pas membre, donc j'en parlerai avec moins de précision, mais voilà, il y a allez-y aussi jeter un œil sur ce site là si vous êtes fan du principe de ce France Loisir du vinyle, comme j'avais pu en évoquer dans des émissions précédentes. Allez voir du côté des Frenchies aussi, quoi, c'est possible.
Ah oui, carrément. Et puis voilà, nous on vous parle de Vinyl Me Please parce que c'est ce qu'on connaît, mais il y a certainement d'autres expériences à faire sur le même principe. Alors bon, on va commencer donc pour l'écoute musicale. Moi, je vais vous passer un extrait du premier vinyle que j'ai commandé à Vinyl Me Please. C'était au mois de décembre. C'est un album de Billie Holiday qui s'appelle Lady Sings the Blues, un album qu'elle a enregistré qui est sorti en 1956, mais qu'elle a enregistré dans deux sessions différentes entre 1954 et 1956. plus une session à New York et une autre à Los Angeles, je crois. Donc c'est un album qui est un album sous forme un petit peu de compilation avec certains inédits, mais quoi qu'il en soit, ce sont des versions revisitées de ces classiques. On y retrouve donc Strange Fruit, par exemple. On y retrouve aussi Good Morning Heartache, par exemple. Voilà, donc il y a certains classiques de Billie Holiday. Billie Holiday, cet artiste au destin tragique quand même, hein, si on peut dire. On en parlait hors antenne avec Julien, une artiste à la voix unique, très vite repérée et à la carrière fulgurante, mais aussi avec des démons terribles qui lui ont fait complètement déraillé sur le plan personnel, avec des consommations excessives de drogue en tout genre, des séjours en prison pour possession de drogue, des cures de désintox plus ou moins fructueuses, et puis une mort à 44 ans des suites de maladies tant elle s'était auto-détruite. Par toute cette hygiène de vie absolument déplorable. C'est ce qu'on disait avec Julien, hein. On disait que les jazzmen ou les jazzwomen ont parfois dans l'imaginaire collectif une image un petit peu guindée. Voilà, le jazz c'est une musique
un peu d'hôtel chic.
Sauf que on oublie que c'était quand même les premières rockstars entre guillemets au niveau des toxicomanies en tout genre et des destins brisés des années 50-60. C'est dans le jazz, il y avait beaucoup de drogue déjà à l'époque, bien avant le rock'n'roll psychédélique et autres grunge et héroïne plus tardive. Voilà. Donc on va s'écouter un des inédits puisque c'est le titre éponyme, Lady Sings the Blues de Billie Holiday. Vous allez pouvoir découvrir si vous ne la connaissez pas, cette voix unique qui a fait d'elle une star du blues et du jazz.
Got them bad, she feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but I know I won't die. But now the world will know she's never gonna sing them no more. No
Billie Holiday, donc dans le manche disque Lady Sings the Blues, version Vinyl Me Please. Donc vous, j'imagine qu'avec un morceau pareil, vous vous serez fait votre idée de la qualité du son, puisque là, il n'y a pas de tricherie sur du jazz comme ça.
Très très propre.
C'est tout à fait évident qu'on est sur du pressage très très propre.
Oui, souvent à partir des bandes originales, pardon, je te coupe, mais on est sur du AAA, pas sur tous, hein, mais il le précise quand c'est le cas, sur du pur analogique.
Des sources analogiques, et c'est le cas de cet album-là. C'est le cas de cet album-là, par exemple. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 1956, 3 ans avant sa mort, voilà. Donc un album un petit peu rétrospectif. Je disais tout à l'heure qu'elle a, elle a été puisée dans ses titres passés pour les chanter peut-être parfois 10 ans, parfois 15 ans après, sur cet album Lady Sings the Blues. Voilà. Donc je te laisse la main maintenant pour quelque chose de différent.
Un petit peu plus énervé peut-être. Je vais vous passer un morceau d'une très belle compilation qui s'appelle End of the Night 1976-1983, qui est fait par The Detroit Punk Archive. Donc en fait, effectivement, vous l'aurez compris, c'est une compilation de musique punk dès la fin des années 70 de Détroit. Avec notamment un focus sur un club qui s'appelle The Bookies. Alors c'est une très belle édition, hein, qui était disponible pendant la première salve du Discardé de l'année dernière, avec facsimilé de petites affichettes, couverture du fanzine White Noise, qui était très très lié à ce club, ce Bookies, qui faisait l'admission à 3,50$, mais 7$ pour les hippies. Donc vous voyez, il y avait vraiment la petite dent contre le mouvement hippie qui est traditionnel chez les punks, hein. Et donc je vous propose d'écouter un morceau de 1979, d'abord sorti sur un 7 pouces d'un morceau d'un groupe, pardon, qui s'appelle Rur, R-U-R, et le morceau s'appelle Go Baby. We'll be right back. étiez dans un club chez le, dans le Bookies à Détroit en 1979, et peut-être avez-vous vu David Bowie passer, baisser sa vitre. Quelqu'un lui a envoyé un exemplaire de White Noise et il est reparti. C'est l'anecdote qui est dans le, l'intérieur du disque.
Voilà. Donc en espérant que vous n'êtes pas trop familier du mouvement hippie, parce qu'apparemment,
oui,
si j'ai bien compris, ils n'étaient pas les bienvenus dans ce club. Bon, alors moi je vais continuer avec ma découverte que je vous ai annoncée, donc des disques de Vinyl Me Please. On va changer d'ambiance totalement, on va changer de continent aussi, puisque je vais vous passer un morceau issu de l'album Africa Brasil de George Benn. George Benn, donc cet artiste brésilien qui a fait carrière pour son alliance en fait de la samba et du rock et de la pop, voilà, au Brésil. Et puis cet album Africa Brasil, il intervient dans sa carrière, il marque un tournant. Alors d'abord sur le titre, ce que je peux dire, c'est que George Benn, il a eu en 76 la volonté de s'inspirer de tout ce qui pouvait se passer aux États-Unis par rapport aux droits des Afro-Américains et notamment de toute la réflexion qui s'en est suivie sur la condition d'homme noir. Voilà, le Black Power et la prise de conscience aussi des racines africaines et du coup d'une redéfinition de l'identité afro-américaine. Et donc pour s'inspirer de ça, donc il a sorti cet album Africa Brasil qui a aussi été un tournant musical pour lui, puisque c'est un album qui a eu la particularité d'électrifier son son un petit peu à la manière de Bob Dylan. Mm-hmm. qui s'est fâché avec un certain nombre de puristes folk quand il a commencé à brancher une guitare électrique. Et bien George Benn, il a eu un petit peu le même cas de figure avec ses fans de la première heure, avec cet album Africa Brasil, puisqu'il a intégré donc dans cet album des sonorités beaucoup plus électrifiées, une référence aussi à des rythmiques plus funky qu'il n'en avait l'habitude. Et donc je vais vous passer un morceau qui s'appelle Taj Mahal. Alors le morceau qui s'appelle Taj Mahal, il a été enregistré bien avant, il a été enregistré en 72, mais il est ressorti, un petit peu revisité aussi dans cet album Africa Brasil. Et je vous ai choisi aussi ce morceau pour faire un petit clin d'œil, puisque c'est un morceau qui a valu à Rod Stewart un procès, puisque Rod Stewart en 1978, donc 6 ans après la composition de Taj Mahal et 2 ans après la sortie d'Africa Brasil, il a sorti un hit planétaire qui s'appelait Do You Think I'm Sexy. Vous allez vous en rendre compte à la première écoute, reprend une mélodie récurrente de refrain de ce Taj Mahal de George Benn. George Benn, entre parenthèses aussi, petit fun fact, il a ensuite, quand il a changé de maison de disque, il a changé de nom, il a rajouté George Benn Jor, parce qu'il était agacé qu'on confonde tout le temps avec George Benson. Voilà. Et puis aussi pour des questions de droit aussi au moment du changement de maison de disque. Voilà. Il en avait marre que George Benn, ça ressemblait trop à George Benson. Du coup, ça provoquait des confusions chez les personnes qui allaient acheter ses disques. Et du coup, il a dit il faut que j'ajoute quelque chose. Et donc, il a rajouté ce petit suffixe à son pseudo. Donc, on s'écoute tout de suite Taj Mahal. Et vous allez, pour les plus curieux d'entre vous, reconnaître quelque chose qui vous évoquera Rod Stewart.
Princesa Nil Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan, pela princesa Nil Mahal, Taj Mahal.
Mahal, um monumento em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano Hégira. Um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nil Mahal.
Voilà, vous l'aurez sûrement donc repéré, ce petit plagiat inconscient, dira plus tard Rod Stewart. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose qui s'est réglé à l'amiable, moyennant finance, hein, très certainement.
Oui,
Rod Stewart,
que c'était, voilà,
il avait les moyens de pouvoir consoler un peu notre ami George Benn. Mais il ne s'est pas trop défendu, hein, d'après ce que j'en sais de cette affaire-là. Il a admis directement, je pense que quand on l'a écouté, ce n'est pas trop, trop défendable non plus. Donc voilà, lui, il a parlé de plagiat inconscient. Ce qui est quand même quelque chose en quel je crois vraiment, ouais, profondément, puisque avec tout ce qu'on écoute, tout ce qui a déjà été fait, c'est parfois compliqué, je pense, de rentrer dans une logique de composition, ouais, en ayant cette angoisse de plagier ou pas. Donc parfois je pense qu'on doit pomper des choses sans s'en apercevoir. L'important, c'est de pouvoir l'assumer après, et c'est ce qui a été fait par notre ami Rod.
Bravo
à lui.
Et ben, pour le coup, moi, je vous propose donc de faire un petit cycle vaudou, on va dire, avec deux morceaux là qui vont se suivre. Je vais vous présenter le premier, et puis ensuite on parlera du second un petit peu plus tard. Alors, si je vous parle de vaudou et que je vous dis Céron, ça va vous faire tout drôle, je pense, parce que vous allez peut-être penser au disque qu'on trouve sur les vide-greniers, à cette espèce de bonhomme un peu disco, machin, etc. Donc moi, je connaissais assez peu la carrière, je dois l'avouer, et que j'ai découvert par le biais d'un très beau coffret de trois vinyles, qui sont ces musiques pour les trois films de Brigade Mondaine. En fait, effectivement, adapté des récits de Gérard de Villiers, ce qui était une série donc de littérature de gare populaire, policière. Il y a eu trois films, dont ce Vaudou aux Caraïbes, qui est le dernier, et Céron s'est chargé de faire la musique pour les trois. Et alors là, on découvre tout ce que j'aime, moi, dans cette espèce de musique un peu électro de la fin des années 70, début 80. C'est un petit peu glauque, c'est un petit peu lancinant, c'est un petit peu rétro. Enfin voilà, il y a tout ce que j'aime. Et là, il intègre, effectivement, vu le thème, Brigade Mondaine, Vaudou aux Caraïbes, il intègre des percussions, etc., etc. Et je vous propose d'écouter donc le titre, ça s'appelle Vaudou aux Caraïbes, suite.
Mwen se gason, mwen senti mwen brave. Bon Dieu bon force, m'ap supporte calamité, souffrance, tribulation ak tentation yo. Mais non, mwen pap découragé. Mwen di non 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 non.
Angstromers. Alors Tchoukboa, c'est une formation qui joue de la musique de Haïti et extrêmement inspirée de la culture vaudou, reprenant bon nombre de références à cette culture et à cette religion. Et ils se sont associés avec The Angstromers, qui sont deux gars, deux Belges, qui font de l'électro. Et c'est signé chez Bongo Joe, un label suisse. C'est sorti tout récemment, c'est sorti cette année, je crois. Et c'est vraiment assez original. On est à la rencontre de la musique électronique, un peu à tendance même presque électro-body music, quoi, avec des sons bien, bien puissants, bien présents. Et toute cette musique traditionnelle vaudou, réinterprétée, hein, évidemment, à la modernité, quoi, et puis avec des textes donc qui sont détaillés dans le livret, plein de références donc à l'horrible histoire de l'esclavage et toute la construction de la culture vaudou, de tous ces syncrétismes et voilà, de toute la souffrance et parfois de l'espoir. Donc là on a écouté Mauve Tan, qui est une sorte de prière d'un homme qui va devoir affronter la tempête.
Ok, ben c'était un petit peu à ça que ça ressemblait, effectivement. Une grande tempête, surtout dans l'intro. On va changer encore de style. On va aller du côté des années 70 et d'un album, le troisième disque de Vinnie Meeples que j'ai reçu. L'album de Donny Hathaway, Everything is Everything. C'est un album qui marque le changement de label aussi de Donny Hathaway, qui avant ça avait fait les beaux jours du label de Curtis Mayfield, Curtom. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu une petite brouille entre eux. Il a changé de label. Le changement de label a définitivement fâché les deux hommes. Il a donc signé chez Atlantic, Atco, et a sorti ce Everything is Everything qui marque le début de sa carrière solo. Donny Hathaway, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai passé Billie Holiday et puis maintenant Donny Hathaway qui a aussi un destin tragique, puisque toute sa carrière prometteuse a été gâchée par des dépressions très très importantes, des passages à vide psychiatriquement absolument épouvantables, et puis sa vie elle a pris fin à 33-34 ans, je crois. Pour des raisons un peu mystérieuses. En tout cas, il a été retrouvé beaucoup plus bas que sa fenêtre ouverte,
d'accord,
et sans marque de lutte, donc ils en ont déduit qu'il s'était suicidé.
Dans quelle année à peu près,
Alors il est à 33 ans, donc début 70, moitié 70.
Ouais. D'accord, ok.
Et donc, au grand dam de son ami aussi, avec qui il collaborait beaucoup, Roberta Flack, l'auteur de Killing Me Softly, en tout cas l'interprète, je ne sais pas si elle l'a écrit ou pas. Voilà, donc on va s'écouter un de ses grands tubes que tout le monde connaît peut-être sans l'associer forcément à Donny Hathaway, qui s'appelle The Ghetto. Rien qu'en le disant, peut-être qu'il y a déjà une mélodie qui vous revient dans la tête, tellement c'est un classique intemporel. The Ghetto. Donny Hathaway chez Vinyl Me Please, édition aussi de décembre. Ooh,
This is the ghetto. Showing up now. Oh,
Donny Hathaway, je disais tout à l'heure, milieu 70, le décès de Donny Hathaway, c'est un peu plus tard, c'est 79.
D'accord.
Très exactement.
On reste dans la décennie, voilà. En tout cas.
Tout à fait.
Eh bien, écoute, moi j'enchaîne, il va être temps de se dire au revoir et oui. Je vous propose de terminer cette 31e émission avec le morceau traditionnel de la compilation Brown Acid. Et là, je vous parle du 6e opus.
Ah, on a failli te prendre à défaut là.
Hein. The Sixth Trip.
T'as failli marquer ton engagement.
Juste. C'était juste.
C'était tout juste. Dernier morceau.
On se l'est dit, on le met si on a la place, sinon ce sera pour la prochaine fois. On a la place, donc je vais pas trop blablater pour vous permettre de l'écouter. D'autant plus que là, on est vraiment sur un petit 45 tours qui doit être très mystérieux. D'habitude, Brown Acid détaille dans un petit texte sur le dos de la pochette en trois lignes hein, d'où viennent les gens, ce qui s'est passé, etc. Comment c'est sorti. Et là, pour le groupe Enoch Smokey, ou le monsieur Enoch Smokey, avec son morceau It's Crawl de 1969 qui nous vient de Iowa City, Iowa, eh ben, il n'y a rien. Donc je vous laisse juste profiter. Enoch Smokey, It's Crawl.
Et à dans 15 jours.
À dans 15 jours, bye bye.
Salut, bye bye.